cours de critique par le père Philippe à Saint-Joseph, le 14 janvier 1986.
Dans une ville. je ne peux pas critiquer la contemplation de quelqu'un. Mais je peux critiquer ce qu'il me dit de sa contemplation. Le legain de sa contemplation, je peux le critiquer. Je peux critiquer son message quand il se met à écrire. Ça, je peux le critiquer. C'est très important de comprendre ce qui est critiquable et ce qui n'est pas critiquable. Donc, le langage, comme signe, me montre qu'il y a un au-delà de toutes les affirmations qui sont dans les énonciations et les propositions. Il y a des termes simples. Deuxième, ça c'est un raisonnement par mode de signe, donc c'est jamais parfait. Deuxième raison, c'est qu'il y a affirmation et négation. Le jugement est double. Et c'est pas si commode que ça de savoir si l'affirmation est avant la négation, si la négation est avant l'affirmation. Puisque je sais que certains philosophes ont dit que la négation était avant l'affirmation, et d'autres ont affirmé l'inverse. Donc, je suis devant un problème qu'il faudra résoudre au plan critique, qui est très important, surtout aujourd'hui. Parce que la philosophie est tout autre si la négation est première. Ça prouve que le jugement implique une division. La négation par rapport à l'affirmation me montre que le jugement est divisible. Il n'est donc pas premier. Notre manière de juger n'est pas première puisqu'il y a affirmation et négation à l'égard de la même réalité. Tout ce qui est divisible n'est pas premier. Ça, je peux le dire métaphysiquement. L'un seul est indivisible. Et donc il faut un au-delà du jugement. Qu'est-ce que c'est que cet au-delà du jugement? C'est ce que j'appelle l'appréhension. Puisque je le saisis à travers le langage, à travers mes affirmations. Toutes mes affirmations et toutes mes négations présupposent une saisie antérieure de quelque chose. De quelque chose de simple. C'est ce que j'appelle l'appréhension. Je suis donc en face de cette opération première qui est élémentaire, et je dis bien qu'elle est élémentaire. Elle est première en tant qu'élémentaire parce qu'elle n'existe jamais dans cet état élémentaire. Très très vite, et même je crois toujours, elle est donnée à travers un jugement. Seul le jugement apparaît comme une opération parfaite. Tandis que l'appréhension est élémentaire. Mais ça me suffit. C'est même très intéressant de voir que ce qui est premier en moi ne peut être qu'élémentaire. Vous voyez, comme il y a le chiffre biologique de l'individu, je pourrais dire qu'il y a le chiffre de l'intelligence qui est donné dans l'appréhension. Et l'appréhension me donne ce qu'il y a de tout à fait fondamental dans ma vie intellectuelle. Je suis capable d'appréhender. Ça explique comment il y a des intuitions. Ça, on verra ensuite quand on parle d'intuition. Alors, il faut bien comprendre que beaucoup de philosophies n'acceptent pas cette distinction. Et c'est là la limite de ces philosophies. Parce qu'elles restent au jugement. Elles considèrent que le jugement est premier. Si elles considèrent que le jugement est premier, je ne comprends pas comment le jugement peut se diviser en affirmation et négation. Il faut pouvoir expliquer l'affirmation et la négation. Or, je ne peux expliquer l'affirmation et la négation que si je dépasse le jugement, en voyant qu'au-delà du jugement, il y a l'appréhension. L'appréhension, elle n'est ni affirmative, ni négative. Elle est au-delà de l'affirmation et de la négation. Et elle va rendre raison de l'affirmation et de la négation. C'est ça qui est extraordinaire. Et ce qui est très important, quand je dis que l'appréhension est première, c'est que par là, je peux montrer ce qu'il peut y avoir de vrai dans la pensée de Descartes. Dans tout philosophe, il y a toujours des petites paillettes de vérité. identifier philosophie et critique. Et d'avoir regardé la critique comme ce sur quoi on se fonde. Au plan critique, on se fonde sur le concept, fruit d'appréhension. Au plan métaphysique, au plan philosophie, on se fonde sur le jugement d'existence, qui est un jugement. Parce que justement, on considère que la réalité est antérieure à ma pensée. Tandis qu'au plan critique, je m'enferme dans ma connaissance. Et donc, si je m'enferme dans ma connaissance, la connaissance est première, c'est bien évident. Et ce qu'il y a de premier dans la connaissance, c'est l'appréhension. Et donc, c'est le concept. Vous voyez, c'est intéressant de saisir là une erreur extrêmement importante. Confusion de la critique et de la philosophie. Qu'on retrouvera alors chez Kant et qu'on retrouvera ensuite, je crois, dans le primat de la méthode réflexive en phénoménologie. Le primat de la méthode réflexive implique une confusion entre critique et métaphysique, entre logique et métaphysique, entre logique et philosophie. Et comment Descartes est-il arrivé à cela? Je crois que c'est à cause de la scolastique.
Se caractérise par l'assimilation. C'est donc l'opération
facile à comprendre. C'est pour ça que quand vous commencez à être malade, il vous faut un régime. Vous n'êtes plus un bois. Il vous faut un régime. Parce que vous n'assimilez plus telle chose. Quand le vivant recommence à vivre, il recommence à assimiler. Et celui qui a un cancer ne peut plus assimiler tel élément. Et c'est un signe. C'est très curieux, ça. Et c'est très intéressant à noter que le vivant, c'est celui qui assimile. Alors, au point de vue intellectuel, au point de vue de ma vie spirituelle, l'opération première de l'esprit, c'est d'assimiler. L'appréhension, c'est l'intelligence capable d'assimiler la forme des autres réalités. L'eidos, la forme. On assimile tout ce qui est capable d'être assimilé intellectuellement. J'assimile.
Farouche.
quand on n'a pas assez d'espace vital pour se nourrir, on devient farouche. L'intelligence, c'est une vie spirituelle. Elle respecte l'autre. C'est curieux, ça. Hein. C'est très intéressant à noter tout de suite. Hein. Il semble du critique, je le vois tout de suite. L'assimilation de l'intelligence est une assimilation intentionnelle. C'est-à-dire une assimilation qui respecte l'autre. Je deviens l'autre sans le briser. C'est ça le propre de l'assimilation intellectuelle, intentionnelle. Je respecte l'autre. Je ne le modifie en rien. C'est pas parce qu'on connaît quelqu'un qu'on le diminue et qu'on le brise. Au contraire, plus on le connaît intellectuellement, plus on le respecte. Donc, assimilation intentionnelle, c'est-à-dire une assimilation qui me modifie et qui ne modifie pas ce que je connais. Je suis modifié par les réalités que je connais. Je suis modifié par les formes que j'assimile. Mais je ne modifie pas les réalités que j'assimile. C'est ça l'intentionnalité, oui. C'est très élégant l'intentionnalité. C'est une élégance merveilleuse. Je te respecte. Et je te connais. Et plus je te connais, plus je te respecte. Tandis que quand vous mangez un petit lapin, vous dites, plus je te mange, moins je te respecte. Puisque plus je te mange, plus je t'assimile, et plus tu deviens moi. Alors évidemment, puisque je suis supérieur à toi, je t'ennoblis. Puisque le petit lapin deviendra un homme. Une évolution remarquable et rapide. Le petit lapin devient mon sang. Le petit lapin devient moi. C'est extraordinaire, ça. Et je le cuisine pour qu'il devienne davantage moi. Et c'est merveilleux, ça. Vous voyez, ça, c'est la vie biologique. La vie biologique n'a aucun respect vis-à-vis de celui qu'elle assimile. La vie intellectuelle assimile. Je dis ça parce que c'est très important de respecter les niveaux de vie. Et la critique respecte tout de suite et voit tout de suite ce qui caractérise la vie intellectuelle. C'est le respect de l'autre. Parce qu'on devient l'autre sans le détruire. Donc c'est le respect de l'autre. Un intellectuel n'est intellectuel que quand il respecte. C'est la première chose que je constate. Alors, comprenons bien, qu'est-ce qui se passe dans cette assimilation intentionnelle? Je deviens l'autre, tout en restant moi-même. Je suis capable de faire que la forme de l'autre devienne ma forme. Au niveau intentionnel, pas au niveau réel. Donc apparaît avec la connaissance intellectuelle quelque chose de nouveau, l'intentionnalité. Et tout de suite, je comprends que pour expliquer ce qu'est ce phénomène de la connaissance, cette réalité nouvelle qu'est la connaissance, je dois nécessairement comprendre qu'est-ce que c'est que l'intentionnalité. Une assimilation intentionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une assimilation intentionnelle? Je veux dire que je suis capable de m'enrichir de la forme de l'autre, de son eidos, sans être modifié, sans modifier l'autre, et sans modifier mon être profond. Je vois donc tout de suite la distinction entre l'intentionnalité et la réalité substantielle. Ma réalité substantielle est capable d'assimiler des formes intentionnelles. et ses formes intentionnelles modifient mon esprit, mais ne modifient pas mon être. Ah, mais la distinction entre être et esprit, qui va tout de suite être mis en pleine lumière par cette assimilation intentionnelle. Mon esprit s'enrichit, j'assimile des formes, et mon être profond n'est pas changé. Votre être profond n'est pas changé par la qualité que vous pensez. Votre substance n'est pas changée, et vous ne changez pas la réalité de l'autre. Donc le domaine de l'intentionnalité va se développer indépendamment, attention, indépendamment de l'être. Ah, puis-je dire ça? Non. Va se développer en dépendance de l'être, mais sans le modifier immédiatement. Mais l'intentionnalité dépend de la réalité de l'autre. Parce que si cette réalité disparaît, l'intentionnalité disparaît. Et donc, l'intentionnalité repose sur l'être, mais n'est pas l'être et d'autres choses. C'est ce qui va permettre de devenir toute chose intentionnellement. Ce qui va permettre à mon esprit de s'ouvrir à toutes les autres réalités autres que moi et à les devenir. Je touche là quelque chose d'infiniment mystérieux, philosophiquement parlant, et de très important. Le domaine de l'intentionnalité, ça va absolument. Et la critique se heurte tout de suite à ce problème de l'intentionnalité qui m'est donné dans mon assimilation intentionnelle de l'appréhension. Poussons un peu dans cette assimilation. Je deviens l'autre intentionnellement. Je deviens la forme de l'autre. C'est plus juste de dire ça. Je deviens la forme de l'autre. Je deviens sa quiétude intentionnellement. Il y a donc dans cette assimilation deux choses à regarder. Comme dans toute assimilation. Dans toute assimilation, l'assimilation nutritive. Quand vous mangez le petit pain le matin, c'est l'autre. Il y a l'autre. Au point de départ, j'assimile quelque chose d'autre que moi. Il y aurait une auto-assimilation, mais ça, il faudrait se demander ce que c'est. Hein. L'auto-assimilation, ça pose un petit problème. Hein. Et médicalement, ça pose un petit problème, l'auto-assimilation. C'est une maladie. C'est très très curieux. L'assimilation n'est vraie que quand j'assimile l'autre. Mais qu'est-ce que j'assimile dans mon assimilation intentionnelle, c'est-à-dire dans mon appréhension? La forme, l'eidos. La forme. Ce n'est pas l'exister. La mise entre parenthèses de l'essai. Hein. Userne. La mise entre parenthèses de l'essai. C'est vrai, quand j'assimile, je laisse tomber l'exister, parce que je ne peux pas assimiler l'exister. Je n'assimile pas l'exister au point de vue intentionnel. Hein. L'exister de la carotte. Vous assimilez l'essai, l'exister au niveau assimilation biologique. Parce que si vous l'assimilez que l'idée, ça ne va pas très loin. Votre petit déjeuner intentionnel, ça ne va pas très loin. N'est-ce pas ? Tandis que votre petit déjeuner réel, ah oui, c'est le croissant qui existe. Hein. C'est celui-là que je veux. C'est. Donc, je laisse tomber et je regarde la forme, l'eidos. C'est l'eidos que j'assimile. de l'opération vitale, elle m'est donnée dans la simulation. Pourquoi je dis que la vie implique l'immanence? Parce que la première opération du vivant, c'est la simulation. Et la simulation est immanente. J'assimile pour moi, hein. J'assimile pas pour un autre. Le vivant comme tel, hein. Le vivant comme tel, il est égocentrique d'une façon terrible. C'est pour ça que c'est si sauvage la vie biologique. Parce que je prends mon herbe, je prends ma salade, je prends mes carottes, j'assimile pour moi. Regardez quelqu'un qui a faim. C'est extraordinaire de voir ça. Il se précipite, il mange vite. Et plus il est vivant, plus il mange vite. Parce qu'il assimile pour lui. C'est le vivant qui assimile pour soi. On assimile pour soi. Donc, il y a le point de départ de l'assimilation. Et puis il y a le terme de l'assimilation qui reste immanent. Il y a un fruit dans l'assimilation, en toute assimilation. Alors, on comprend très bien dans l'ordre biologique, on assimile pour soi. Et c'est très curieux dans toute assimilation, puisqu'il y a une immanence et il y a en même temps un rejet. Il y a un discernement. Ce qui est assimilable et ce qui n'est pas assimilable. Parce que le vivant garde pour lui. Alors dans l'assimilation biologique, c'est très facile de saisir naturellement ce qui est assimilable et ce qui n'est pas assimilable, donc qui est rejeté. Et le jour où il n'y a plus ce discernement instinctif au niveau biologique de ce qui est assimilable et de ce qui n'est pas assimilable, on sait très bien ce que ça fait. Intoxication. Parce que vous gardez au-dedans de vous-même quelque chose qui n'est pas assimilable. Et quand vous le gardez au-dedans de vous-même et que ce n'est pas rejeté, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va plus. C'est très intéressant de voir ça. Parce que ça, c'est une loi tout à fait fondamentale du vivant. N'y a-t-il pas la même chose du côté intellectuel, hein? Des intoxications intellectuelles, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Les intoxications intellectuelles. On assimile des choses qui ne sont pas assimilables. Du moins, on veut assimiler ce qui n'est pas assimilable. Alors, qu'est-ce qu'il fait au bout d'un certain temps? Vous êtes en face d'une intoxication intellectuelle. Critique que vous faites à un philosophe. Intoxication intellectuelle. Il faut bien voir le discernement, hein. C'est très intéressant, il faut au moins noter ça. Donc, il y a une assimilation intentionnelle, il y a un point de départ, il y a un terme. Le point de départ, c'est la forme. Et le terme, c'est la forme assimilée. Qu'est-ce que c'est que la forme assimilée? Intentionnellement, c'est le concept. Le concept n'est rien d'autre que la forme intentionnelle assimilée. C'est ça le concept. Le concept de blanc. Le concept de animal. C'est quelque chose que je porte en moi et que j'exprime. Ce concept animal, c'est la forme intentionnelle assimilée. Plus ou moins bien assimilée. Quand vous l'assimilez, par quelqu'un qui vous donne des mots. Je vous donne le mot blanc. Vous assimilez blanc. Quelquefois, vous n'assimilez rien du tout. Et vous répétez. Alors, voyez, le mot donne des intoxications. C'est extrêmement curieux. Quand vous mangez des mots, et que vous n'assimilez rien, vous n'y comprenez rien. Mais il y a des mots. Le mot risque toujours d'intoxiquer. Je vous ai déjà dit cette petite expérience que j'ai faite à Fri. m'en a invité. Alors, c'était facile. Je dis, c'était un Français, il fallait donc y aller. Et dès le point de départ, j'ai vu qu'il comprenait rien à ce qu'il disait. Qu'il répétait des mots. Alors, j'ai noté tous les mots qu'il disait, qui étaient des mots philosophiques. Donc, c'était visible qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait. Là, il y avait 10 mots clés qui revenaient tout le temps. Dialectique, immanence, transcendant. On est tous les mots clés. C'est facile. Alors après la conférence, on réunit tous ceux qui étaient de langue française ou même les Français pour prendre le vin d'honneur ou le thé d'honneur, peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais, et pour dire combien cette conférence était merveilleuse, gargarisme, le gargarisme intellectuel, venez, aussi merveilleux, on s'envoie des fleurs. Moi je me taisais parce que j'étais furieux, j'avais perdu une âme. J'avais rien appris dans cette conférence, mais rien. Parce qu'il y avait que des mots. Donc il y avait une indigestion, une intoxication. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de très bien. Il avait sûrement une possibilité extraordinaire. Ce jeune, il avait 25 ans. Mais intoxication. Bourrage de crâne. Des mots. Alors, comme je n'ai pas voulu venir, on m'a forcé de venir. J'ai dit, bon, très bien, je veux bien venir, mais je ne sais pas ce que je dirais. Si vous m'interrogez, évidemment, on m'a demandé, qu'est-ce que vous en dites? Alors, j'ai dit, moi, j'ai qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir la signification de certains mots qui étaient employés dans cette conférence. Je suis très impoli en faisant ça, mais que voulez-vous? On est philosophe, donc on est au-delà de la politesse ou l'impolitesse. On cherche la vérité. Alors, vous avez employé ce mot, dialectique, transcendant, et puis j'ai repris les 10 mots. Je voudrais savoir ce que ça veut dire. Alors, gardez le silence. Les 10 mots, le silence. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Alors, je lui ai dit, et ce que je répète toujours, vous avez le droit dans les examens d'employer des mots que vous ne comprenez pas. Si l'examinateur n'est pas suffisamment intelligent, il comprendra que vous avez dit des mots très très bien, c'est les mots de son cours. C'est la seule chose qu'un examinateur attend, c'est qu'on répète ces mots. Alors vous les répétez autant que possible dans l'ordre qu'il a été donné. Autant que possible. Et vous répétez des mots. Mais quand vous faites une conférence ou un cours, vous n'avez pas le droit d'employer des termes et des mots dont vous ne connaissez pas la signification. C'est vrai, ça. Parce que quand je ne connais pas la signification, vous comprenez bien, ça prouve que j'ai répété des mots. Je ne les ai pas assimilés. Assimiler, c'est une forme qui est alors complètement assimilée. Et par le fait même qu'elle est assimilée, elle prend une signification. Le lieu de la signification, c'est le concept. C'est le concept qui est le lieu de la signification. Quand j'assimile une forme intellectuellement, intentionnellement, elle a une signification. Mais le phénomène de l'intoxication, j'accumule des mots. C'est le danger de notre culture. C'est le danger de toutes les cours. C'est un danger. Parce que on risque d'avoir une espèce de mots qui reviennent. Alors l'avalanche des mots. Et puis l'intelligence est étouffée. Elle n'assimile plus des mots. Or les mots sont inassimilables. Ça risque d'être toxique. Tandis que c'est la réalité qui est assimilable. Les mots, je les ajoute. Vous avez bien regardé le gosse. Quand il voit pour la première fois le TGV, il dit, qu'est-ce que c'est, maman? Qu'est-ce que c'est, ce gros truc qui arrive là, qui risque de ne... Qu'est-ce que c'est? C'est très drôle de voir un gosse devant la première fois qu'il voit un TGV. a montré comment le mot Dieu avait étouffé en lui le sens religieux. Et c'est vrai, le mot Dieu peut étouffer le sens religieux. Parce que si vous mettez Dieu à toutes les sauces, ou le diable à toutes les sauces, surtout la sauce noire, n'est-ce pas ? Alors à ce moment-là, c'est terrible parce que vous n'avez plus la réalité, vous n'avez plus des mots. Une culture comme la nôtre, qui est une super culture, risque de s'étouffer elle-même, l'inflation des mots. Et l'inflation des mots, il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus d'expérience, il n'y a plus que les mots. Alors ça devient des jeux. Vous voyez, c'est l'assimilation intentionnelle réclame qu'on élimine ce qui n'est pas assimilable. Ce qui n'est pas assimilé. Momentanément, c'est ça le grand vivant intellectuel, momentanément, vous vous servez du mot, oui. Vous vous appuyez, c'est un tuteur le mot, c'est un tuteur. Mais vous voulez rencontrer la réalité. Et tant que vous n'avez pas rencontré la réalité, vous n'avez pas assimilé. C'est la réalité qui est porteuse d'intelligibilité, c'est pas le mot. Le mot, c'est un ersatz. C'est comme la menée par rapport à la réalité. C'est un ersatz, c'est un signe. Mais un signe n'est intelligible que quand il y a la réalité derrière. Le signe par lui-même n'est pas... Je dis ça, c'est parce que c'est très important, ça, au point de vue critique. De comprendre ce que c'est que l'assimilation intentionnelle, c'est à partir de la réalité. Vous comprenez que l'essai est mis entre parenthèses pour découvrir la forme. Mais le mot, c'est une forme conventionnelle. Le conventionnel n'est pas assimilable. On comprend la réaction d'un Jean-Jacques. Il faut revenir à la réalité. Et la réalité, c'est justement ce qui est assimilable. Donc, comprenez, le point de départ de l'assimilation, une détermination. Au terme, le concept, la forme assimilée ayant sa signification. Alors, maintenant, se pose la question, mais comment la forme va-t-elle que se fait cette assimilation intentionnelle. Comment la forme va-t-elle déterminer mon intelligence? Puisque c'est cette forme qui détermine mon intelligence et qui permet à mon intelligence de réagir, d'avoir une opération vitale. L'appréhension est une opération vitale, déterminée dans un sens, grâce à la forme. Alors, d'où vient cette forme?
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,